sur la doctrine chrétienne pour les nuls, c'est-à-dire une réflexion qui s'efforce de prendre au sérieux la révélation chrétienne et de la penser de la manière la plus rigoureuse possible et la plus complète possible. Voilà que j'ai eu l'imprudence de proposer que l'on parle de l'enfer. L'imprudence, je n'ai pas besoin de souligner ce qui rend ce choix imprudent, c'est qu'avec la question de l'enfer, nous sommes d'abord devant une des questions qui scandalise le plus les chrétiens et les non-chrétiens, d'ailleurs, donc qui heurte les esprits, l'idée d'une damnation éternelle qui nous fait apparaître une divinité perverse, cruelle, ne manque pas de choquer les esprits. Et puis, en outre, cette question nous met aussi aux confins de la mythologie, dans ses aspects les plus sommaires, avec des diableries de toutes sortes, des êtres aux pieds fourchus, cornus, des flammes et des supplices plus ou moins raffinés. Et donc, est-il bien nécessaire de s'exposer à renouer avec le scandale de l'enfer, bon, de remettre cette question scandaleuse sur le tapis, et puis est-il bien nécessaire de risquer le voisinage des superstitions les plus archaïques, des mythologies que l'on croit avoir dépassées. Alors d'autant plus que la présentation que l'on a coutume de faire de la foi chrétienne, pour des raisons d'apologétique, sont souvent assez bénignes, finalement, dans notre culture. Et on évite de souligner tous les aspects qui feraient de l'existence chrétienne une existence dramatique. Donc, on y parle à peine du péché, mais Frédéric Roulet, qui d'ailleurs m'a demandé de l'excuser, je ne sais pas si c'est excusable ou pardonnable, en a parlé la dernière fois. Et voilà que l'on va un peu plus loin dans la provocation, en quelque sorte, en abordant la question de l'enfer, sur laquelle il est vrai que, apparemment, nous manquons de documentation et d'expérience. C'est pas si sûr. En tout cas, voilà une question qu'il semble difficile d'aborder avec les moyens de la raison, qui sont ceux que nous utilisons avec la philosophie. Et cependant, passer sous silence cette question, ce serait un mensonge, puisque ça serait passer sous silence une donnée fondamentale de la théologie catholique. Ça serait passer sous silence des pages, des écritures qu'il faudrait arracher à ce moment-là à la Bible, dire bon, tiens, finalement, il faut purger la Bible de ces pages trop folkloriques et archaïques et découper en quelque sorte une Bible qui nous convienne, ce qui est un acte de foi curieux, puisque ça supposerait que l'on construise l'objet en fonction de ses goûts, de ses opinions actuelles. Et puis, passer sous silence cette dimension de la révélation, cette question de l'enfer, ça serait aussi, finalement, se priver aussi d'une certaine tradition populaire. Après tout, un catholique est quelqu'un qui ne rechigne pas au cousinage avec les traditions populaires. Cierges et superstitions de toutes sortes. Car à vouloir purifier la foi de toutes ses traditions, de tous ses héritages, de toute son histoire, il ne reste plus que quelques concepts diaphanes. Un humanisme bienveillant, mais finalement pas grand-chose comme contenu de foi. Il y a donc probablement quelque chose à recevoir aussi d'une certaine tradition populaire. Et puis pour nous autres philosophes, pour moi philosophe, professeur de philosophie, il y a aussi quelque chose à recevoir de la philosophie, car les philosophes nous parlent du jugement. Les philosophes nous parlent du jugement des âmes. Socrate insiste sur le fait qu'il est bon que les âmes soient jugées. Et dans, aussi bien dans la République que dans le Gorgias, il s'attarde longuement à cette idée d'un jugement et d'un sort réservé aux âmes selon la destinée qu'elles ont vécue sur cette terre. Et alors, il est vrai que ça s'inscrit dans d'autres perspectives, mais quand même, il y a cette idée donc d'un jugement et d'un salut et d'une condamnation qui correspond à ce jugement. Ce serait bien entendu donc se priver, mais je l'ai déjà dit, des sources scripturaires, car les références à l'enfer, même s'ils ne sont pas très nombreuses dans les Écritures, et puis surtout si elles ne sont pas du tout imagées et enflammées comme peuvent l'être un certain nombre d'imageries, même si les Écritures sont très sobres lorsqu'elles évoquent la damnation et les lieux infernaux, il y a quand même une évocation de ces lieux, de la géhenne, du lac de feu et de choses comme ça. Et ce serait dommage de ne pas s'efforcer d'être attentif à ces lignes. Ne taire l'enfer, ça serait se priver du cousinage avec une tradition populaire, ça serait se priver du cousinage avec la philosophie, ça serait se priver de la capacité de lire les Écritures, et puis ça serait aussi se priver de recueillir toute la tradition spirituelle qui, par exemple, nous vient des saints. Le nombre de saints qui nous ont donné des textes, à commencer par le curé d'Ars, dans lequel la question de l'enfer est, pour lesquels la question de l'enfer est présente. Et le curé d'Ars, on le sait, songeait à la question de l'enfer avec angoisse, une angoisse qu'il traduit dans un certain nombre de ses propos. Et des saints ont parlé de l'enfer, on ne voit pas pourquoi. On se déroberait à l'obligation d'en parler. C'est donc ce que je vais essayer de faire ce soir. Je parlais donc des imageries. Je n'insisterai pas là-dessus. La référence est banale. Donc les scènes de jugement dernier avec des créatures prises dans des tortures effrayantes. Il est probable que cette imagerie, qui n'est pas du tout celle des Écritures, laquelle je laisse place simplement en introduction, a des sources beaucoup plus archaïques, beaucoup plus fondamentales dans notre histoire anthropologique que la seule révélation chrétienne. Des créatures grimaçantes, ricanantes, menaçantes, on en trouve dans toutes les civilisations. Quand on me dit que c'est pour effrayer les populations que l'Église a fait peindre des scènes d'enfer ou fait sculpter des scènes d'enfer sur les tympans, je me dis que l'influence de l'Église est bien grande si elle s'étend jusqu'au groupe rock. Parce que quand même, je ne pense pas que ce soit l'Église qui ait imposé au groupe rock de vociférer, de se rouler par terre, d'écumer de rage, de se scarifier, se grimer dans des horreurs de toutes sortes. Et donc il est probable que ces images infernales sont ce que Jung appelait des archétypes. C'est-à-dire des images inscrites dans un inconscient collectif, une espèce de mémoire qui précéderait même notre mémoire personnelle et dans laquelle peuvent grouiller des monstres de toutes sortes. Je tiendrai plutôt, et ça sera à l'essence de mon propos, que la réflexion chrétienne sur l'enfer a plutôt pour but de nous délivrer de cette imagerie plutôt que de nous y replonger, même si donc elle est présente en nous. Je disais pour commencer que cette question non seulement nous met en présence d'aspects mythologiques profond, mais que donc c'est une question qui fait naître le scandale dans bien des consciences, dans chacun d'entre nous sans doute, puisqu'elle nous conduit à nous demander serons-nous jugés ? Serons-nous jugés par un Dieu de colère, par un Dieu de miséricorde ? Et ce jugement peut-il entraîner une condamnation, ou plutôt une damnation, ce qui est tout autre chose qu'une punition, parce que cette damnation est éternelle, irréversible. On comprend encore une bonne punition. Allez, pour quelques années, quelques décennies, pourquoi pas quelques centaines d'années, même si le temps paraît un peu long. Le vrai scandale de l'idée de la damnation, c'est son caractère irrévocable, irréversible, définitif, et c'est avec ça qu'il faut se confronter ce soir. En fait, c'est avec ça que je vais essayer de me confronter ce soir. Pour donner un témoignage de ce scandale, je fais référence, entre autres, à Peggy, qui, lorsqu'il s'est écarté dans ses années de jeunesse de la foi héritée de son enfance, s'est écarté de cette foi de l'enfance précisément à cause de l'image de l'enfer. C'est dans un texte qui s'appelle « Toujours de la grippe ». Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Je m'attaquerai donc à la foi chrétienne, ce qui est le plus étranger en elle, et je dirai le mot, ce qui nous est le plus odieux, ce qui est barbare, ce à quoi nous ne consentirons jamais, ce qui a hanté les chrétiens les meilleurs, ce pourquoi les chrétiens les meilleurs se sont évadés ou silencieusement détournés, c'est cela, cette étrange combinaison de la vie et de la mort que nous nommons la damnation. Cet étrange renforcement de la présence par l'absence et renfoncement de tout par l'éternité. Ne consentira jamais à cela tout homme qui a reçu en partage ou qui s'est donné l'humanité. Ne consentira jamais à cela quiconque a reçu en partage ou s'est donné un sens profond et sincère du collectivisme. Ne consentira pas tout citoyen qui aura la simple solidarité, comme nous sommes solidaires des damnés de la terre. Nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient traités humainement, nous n'admettons pas qu'il y ait des citoyens qui soient traités inciviquement, nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient repoussés du seuil d'aucune cité. Là est le profond mouvement dont nous sommes animés, ce grand mouvement qui anime la morale et qui nous anime dans nos revendications. Nous n'admettons pas qu'il y ait une seule exception, que l'on ferme la porte au nez à personne, ciel ou terre. Nous n'admettons pas qu'il y ait des morceaux de la cité qui ne résident pas au-dedans de la cité. Ce qui est une manière de dire comment les bienheureux, comment les saints pourraient-ils être bienheureux et saints tant qu'il y aura un homme exclu de la cité, tant qu'il y aura une personne exclue de la communauté, tant que dans toute l'humanité il y aura un homme dont l'humanité est broyée, tant qu'il y aura un homme dont l'humanité est refusée, aucun homme, et c'est ça la solidarité essentielle, universelle, aucun homme ne peut rester en paix. Et je vous invite à relire le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, dans lequel Peggy, après sa conversion, reprend cette question et par la bouche de Jeanne d'Arc. Alors, je développerai trois points de manière inégale. Le premier point, j'ouvrirai quelques pages des Écritures dans le Nouveau Testament, qui d'ailleurs est plus disert sur la question des fins dernières que l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, l'idée de la survie personnelle n'apparaît guère, et elle semble avoir été tardive dans la tradition juive, Et donc cette idée de l'identité personnelle liée à celle du jugement apparaît principalement dans le Nouveau Testament, puisque finalement il apparaît que l'idée de l'enfer est liée à celle du salut. Et que la possibilité du salut suppose la possibilité de n'avoir pas accès à ce salut. Et donc la damnation. Donc le premier point, j'ouvrirai quelques pages des Écritures. Dans le deuxième point, je rappellerai quelques éléments très discrets d'ailleurs du dogme de l'Église. Et puis dans une dernière partie qui sera plus longue, je risquerai quelques interprétations dont je ne sais pas si elles sont philosophiques ou théologiques. D'abord, donc, on ne peut pas supprimer des Écritures, quelle que soit l'image que l'on veut se donner du doux Jésus, la référence assez constante et insistante à la géhenne, aux ténèbres extérieures, au feu éternel qui est présente dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Saint Luc, au chapitre 13, on entend les apôtres poser cette question au Christ. « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ?» Combien y aura-t-il de sauvés ? La réponse du Christ est rude. Vous la connaissez, pour beaucoup d'entre vous. Il leur dit « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places », mais il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Donc ce texte nous invite à penser que la radicalité du choix, la radicalité de la décision de la foi. Si la relation à l'absolu est sérieuse, on ne peut pas penser que notre relation soit au fond indifférente et soit sans conséquence. Donc se mettre devant le mystère de la géhenne, de là où il y a des pleurs et des grincements de dents, se mettre devant la porte étroite, c'est penser au sérieux de notre liberté. Et au fait que la relation à Dieu engage de manière radicale notre liberté, d'une manière qui n'est pas relative, et si bien que dans cette relation à Dieu, si elle est sérieuse, si elle est réelle, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de points insignifiants, il n'y a pas de choses sans importance. Au contraire, si Dieu est Dieu, si Dieu est l'absolu, devant l'absolu, tout est important. On est tenté de penser devant l'absolu, tout est relatif. On est tenté de dire, bon, si l'absolu est absolu, il ne va pas s'embêter à savoir ce qui se passe si on a arraché de mauvaises herbes ou pas. C'est l'inverse. Devant l'absolu, tout devient justement radical, tout devient irréversible. Et c'est bien donc ce en présence de quoi... Il y a bien d'autres aspects de ce texte, mais ce en présence de quoi nous met ce texte, donc, lorsque l'on s'entendra dire « Je ne vous connais pas, d'où venez-vous, je ne sais pas d'où vous êtes », et que la réponse abrupte du Christ consiste à dire « La porte est étroite ». Et vous connaissez donc l'apologue sur « Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille », ce qui fait que c'est sans doute assez difficile. Dans Matthieu, au chapitre 18, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, on trouve des paroles qui sont aussi radicale, à propos du scandale, justement, malheur à qui scandalise l'un de ses petits, et où il est dit « Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains et tes deux pieds dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux sont constamment en face de mon Père qui est aux cieux. » Enfin, dernier texte, toujours dans saint Matthieu, au chapitre 25, qui est le seul texte dans les Écritures de jugement dernier. Dans toutes les Écritures, on a un seul texte. Les Écritures sont sobres par rapport à tout ce que les catéchismes et les décorations, les fresques ont pu proposer. Mais on a un texte très radical sur le jugement dernier. Relisons-le ensemble. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir assoiffé, de te désaltérer étranger, de t'accueillir nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu, vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier, vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. On a donc bien un jugement, avec une peine et une vie, une damnation et un salut. On a bien l'idée que ce jugement apporte essentiellement et uniquement sur la charité. Donc ce jugement ne porte pas sur, je ne sais pas quoi, la croyance en tel dogme, l'observance de la messe du dimanche ou des choses comme ça. Non, le jugement ne porte que sur la charité. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand bien même, d'ailleurs, cette charité serait-elle exercée dans l'ignorance même du visage du Christ derrière la personne que cette charité secourt. Mais Donc, si c'est la charité qui est décisive, il n'en reste pas moins donc que l'idée du jugement signifie bien que c'est la relation au Christ qui est décisive. Car le Christ dit bien, ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, c'est dans la mesure où, qu'il soit su ou pas su, dans la mesure où le geste est fait en fonction de la relation au Christ, que celui-ci est porteur d'un jugement qui entraîne donc la damnation ou le salut. Alors, au cours de son histoire, l'Église a eu plusieurs occasions de préciser ce dogme. Je ne suis pas du tout un spécialiste, donc il faudra m'excuser des approximations ou des ignorances qui sont derrière mon propos. Mais ce qui est important dans ce dogme, c'est que l'Église a eu à connaître... Alors, vous savez, les dogmes ne se sont proclamés qu'au coup par coup des hérésies. Le Christ n'a pas enseigné des dogmes, l'Église n'a pas commencé par une liste de dogmes, mais les dogmes se sont rédigés à chaque fois que l'Église a entendu un truc un peu bizarre, puis qu'elle s'est dit, bon, est-ce que ça, c'est une bonne expression de la foi ou est-ce que c'est pas une bonne expression de la foi ? Donc, si vous faites partie de ceux qui s'imaginent qu'il y a un texte inaugural avec un certain nombre de points qui seraient au départ, retirez-vous de cette impression. Donc, le dogme s'élabore au fur et à mesure que l'on rencontre des propos dont on se dit... Ça, est-ce que c'est une parole de foi ou pas ? Est-ce que c'est une parole qui peut être enseignée ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose qui exprime correctement la réalité de la foi ? Or, une des principales hérésies qui a été rencontrée autour de la question du salut et de la damnation est celle que l'on appelle, comme disent les jeunes, l'apocatastase plutôt. Donc apocatastase, vous ne l'ignorez pas, signifie donc la restauration définitive et universelle. Et donc c'est Origène qui, enfin les disciples d'Origène qui ont formulé l'idée que à l'issue de ce monde, à l'issue de cette histoire, le Christ reviendra restaurer toute chose nouvelle, et que cette restauration donc correspondra au rétablissement universel de la création dans son état original. Et ce rétablissement de la création ouvrira les portes de l'enfer pour les damnés et pour le diable aussi. Devant cette affirmation, les textes de l'Église ont pris position en rejetant cette idée donc de l'apocatastase, parce que elle contredit la liberté de la personne. C'est-à-dire que il est difficile d'envisager que des hommes, que des êtres, les anges, que des âmes soient sauvés malgré elles. Et si je ne peux pas envisager que des âmes soient sauvées malgré elles, je dois bien pouvoir faire l'hypothèse que des âmes sont damnées, damnables en tout cas, et que la puissance de Dieu, en quelque sorte, s'arrête devant cette liberté qui peut aller donc jusqu'à refuser le salut, ce qui est bien d'ailleurs la signification de ce que l'on appelle le péché mortel. Puisque le péché est qualifié de mortel, dans la mesure où il traduit pour le pécheur la volonté du rejet de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Concile de Lyon de 1274 a rappelé donc que les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt en enfer. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt en enfer. Les Écritures nous disent donc la relation au Christ, la relation à Dieu est décisive. Il y a bien un jugement. Elles nous disent même sur quoi porte ce jugement, sur la charité. Elles mentionnent bien donc la géhenne, le feu éternel, toutes les ténèbres extérieures, toutes images qui sont assimilées donc à une expression de la damnation. Cette idée du jugement donc semble bien liée à celle de la liberté dans la relation à Dieu, si bien que on doit faire l'hypothèse que s'il y a salut, il y a aussi damnation. Comment comprendre cela ? C'est là que je vais risquer, non sans garde-fou, quelques lignes d'interprétation de ce grand mystère, qui est donc celui de la damnation, auquel, comme le curé d'Ars, on ne peut pas penser sans une certaine frayeur. D'abord, le premier point qu'il convient de rappeler, dans la perspective au moins catholique, c'est que tous sont appelés au salut. Le Christ, Sauveur, apporte le salut à tous les hommes, et Dieu veut le salut de tous les hommes, et le Christ est mort pour tous. Si bien que on ne peut pas penser que cette damnation, c'est un des points, vous savez, de discussion avec les calvinistes, corresponde à une quelconque prédestination à la damnation. Puisque le point sur lequel les catholiques ont écarté les thèses de Calvin, c'est que Calvin introduit la prédestination à la damnation qui semble contredire l'idée que le Christ serait venu pour sauver tous les hommes et semble évidemment faire violence à l'idée de la liberté. Dire que Dieu, dans le Christ, veut le salut de tous les hommes, c'est bien affirmer que, évidemment, il est difficile de concevoir que Dieu ait de la haine pour un homme quelconque et qu'il est difficile d'imaginer qu'il ait une quelconque haine pour les pécheurs. De telle sorte qu'il est exclu de penser que l'enfer, d'une manière ou d'une autre, soit une vengeance divine. Une revanche de celui qui se serait vu bafoué, trahi, et qui, profitant post-mortem de ce que cette pauvre âme est coincée, en profiterait donc pour se venger. Donc l'enfer ne saurait avoir la signification d'une vengeance, et encore moins, bien entendu, d'une satisfaction de la colère divine, si bien que l'on ne peut penser qu'une chose, c'est que, et c'est d'ailleurs ce à quoi Peggy aboutira dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, c'est que Dieu souffre pour chaque damné. On ne peut pas penser qu'il y ait une quelconque satisfaction en disant « Tiens, bien fait pour toi ». Il n'a pas d'honneur à défendre. Et c'est comme ça que dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Peggy interprète le cri du Christ sur la croix. Disant que le Christ sur la croix crie d'angoisse en pensant à tous ceux qui n'auraient pas part à ce salut pour lequel il fait don de sa vie. Que Dieu veuille le salut de toutes les âmes, de tous les hommes, et que cela exclut donc d'interpréter l'enfer comme une punition, cela nous permet de continuer sur cette idée que si Dieu est amour, il ne peut que vouloir la liberté. Et donc, c'est pourquoi j'ai insisté au début sur le fait que la réflexion sur la damnation est liée à la liberté et donne à la liberté son enjeu le plus grand. On n'aime pas quelqu'un qui... On n'aimerait pas un être qui ne serait pas libre. Pour que l'amour veut la réciprocité, l'amour veut la réponse, attend la réponse, et cette réponse, évidemment, ne peut pas être contrainte, manipulée, d'aucune sorte. Et c'est pourquoi donc l'idée du jugement renvoie la liberté. C'est d'ailleurs pour ça que les philosophes que j'évoquais tout à l'heure ont pensé l'idée du jugement. Puisque donc cette idée est dans Platon. Et comme je le disais, Socrate insiste sur le fait qu'il est bon pour une conscience d'être jugé. Il est meilleur pour une conscience d'être jugé que de ne l'être pas. Car une conscience qui ne serait pas jugée serait une conscience qui, finalement, se verrait refuser le discernement, se verrait refuser le caractère crucial de ses actes, et donc se verrait refuser la conscience même de cette liberté. C'est d'ailleurs pourquoi Camus fait remarquer à juste titre que dans un discours qu'il a prononcé à Athènes, je crois, que le christianisme, en enseignant l'enfer, a supprimé la tragédie. Je trouve la remarque très pertinente. Parce que la tragédie, c'est justement l'angoisse de celui qui se trouve pris dans un destin, on le sait, qui se voit broyé par des maux qui ne correspondent en rien à sa responsabilité ou à sa liberté. Et qui donc le mettent en présence du mal dans sa forme la plus absurde. Alors que la pensée du jugement, d'ailleurs Socrate est éminemment non tragique, c'est ce que Nietzsche lui reprochait. Socrate rejette au fond le monde grec, rejette le monde de la tragédie grecque, précisément parce que il introduit l'idée de la responsabilité, alors que l'angoisse de la tragédie tient précisément à la souffrance irresponsable. L'existence chrétienne ainsi est dramatique, mais elle n'est pas tragique. Elle est dramatique au sens où elle est décisive, elle est risquée, elle met en jeu la radicalité de tous les choix, mais elle n'est pas tragique car la tragédie annulerait précisément tous les choix et annulerait la validité de tous les choix. C'est encore Camus d'ailleurs, dont on peut admirer la lucidité, qui a bien exprimé dans La Chute l'idée selon laquelle la suppression justement de l'idée du salut et de la damnation mettrait en quelque sorte l'enfer sur terre. Il n'a pas dû trop se tromper. Parce que vous connaissez l'histoire de la chute, donc c'est l'histoire de ce juge pénitent qui, à travers des récits habilement composés, se débrouille pour culpabiliser tout le monde, tous ses interlocuteurs, et se débrouille pour que chacun se sente perpétuellement culpabilisé par ses récits. Et le Jean-Baptiste Clamence, donc le personnage de La Chute, traduit bien qu'un monde athée est un monde de l'angoisse, précisément parce que la liberté y est absolument indéterminée. Et que, à tout moment, au fond, elle est traversée par une malédiction plus terrible d'un certain point de vue que celle de l'enfer, qui est celle de l'absurde. Dans La Chute, on peut lire, Donc c'est... Alors en plus, Jean-Baptiste Lamant, c'est une sorte de porte-parole de Jean-Paul Sartre. Bon, on voit tous les propos de Jean-Paul Sartre mis dans la bouche de Jean-Baptiste Lamant par Camus. Du reste, nous ne pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. Ah, c'est pas mal. Finalement, la pensée de l'enfer, la pensée du jugement, il est bon qu'une liberté soit jugée, est une pensée non pas de l'angoisse, mais de l'espérance. De l'espérance que le salut et la damnation soient en quelque sorte au bout de notre liberté, au bout de notre responsabilité. Certes, ça rend notre responsabilité dramatique, mais pas tragique. Certes, ça rend notre responsabilité dangereuse, mais pas absurde. Car si un tel jugement n'existait pas, alors certainement nous serions broyés par le sentiment de culpabilité, dont Frédéric Roulet a bien montré qu'il n'a rien à voir avec celui du péché. Je continue la lecture de ce texte de Camus, que je trouve assez impressionnant de lucidité. Du reste, nous ne pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. Chaque homme témoigne du crime de tous les autres. Voilà ma foi. Croyez-moi, les religions se trompent dès l'instant qu'elles font la morale et qu'elles fulminent des commandements. Dieu n'est pas nécessaire pour créer la culpabilité. Nos semblables y suffisent. Aidés par nous-mêmes. Vous parliez du jugement dernier ? Permettez-moi d'en rire respectueusement. Je l'attends de pied ferme. J'ai connu ce qu'il y a de pire, qui est le jugement des hommes. Pour eux, pas de circonstances atténuantes. Même la bonne intention est imputée à crime. Alors, la seule utilité de Dieu serait de garantir l'innocence. Et je verrais plutôt la religion comme une grande entreprise de blanchissage. Ce qu'elle a été d'ailleurs, mais brièvement, pendant 3 ans. Et elle ne s'appelait pas religion. Depuis, le savon manque. Nous avons le nez sale et nous nous mouchons mutuellement, tous cancres, tous punis, crachons-nous dessus et hop. Et c'est à qui crachera le premier, voilà tout. Je vais vous dire un grand secret, mon cher. N'attendez pas le jugement dernier, il a lieu tous les jours. Si on ne peut pas penser la damnation sans penser simultanément le salut, c'est donc parce que la pensée de la damnation doit aussi, d'une manière mystérieuse et réelle que je vais essayer d'éclairer, s'accompagner donc de l'espérance du salut, et que sans espérance du salut, bien il ne reste que la tragédie. Si la damnation n'est pas une punition, car une punition, ça s'arrête, même au bout de 100 ans, même au bout de 1000 ans. Si la damnation n'est pas une vengeance, puisque la vengeance supposerait une divinité irascible, humaine, trop humaine, la damnation ne peut être comprise que par la conséquence même de la liberté suivant son propre mouvement. Ce qui veut dire que, au fond, l'enfer, c'est toujours celui que la liberté se fait. C'est toujours celui que la liberté se construit par l'orgueil qui la ferme ou la fermerait à l'amour. Nous disons « Dieu est amour ». Oui. Seulement, alors en disant « Dieu est amour », nous pensons dire quelque chose d'assez sympa, finalement, et dire « bah donc ce Dieu d'amour ne peut pas juger, ne peut pas être méchant ». Seulement, d'une certaine manière, il est plus terrible d'être aimé que d'être condamné. Car être aimé signifie que je ne suis, au fond, jamais véritablement quitte. Devant une loi, je peux dire « je suis quitte ». Devant une loi, je peux dire « j'ai donné ». Comme quand la Croix-Rouge passe et frappe à la porte, je dis « j'ai déjà donné ». Et alors que devant l'amour, je ne peux jamais me dire quitte, je ne peux jamais dire « j'ai assez aimé ». Maintenant, il est temps que je prenne ma retraite. Ou « j'ai assez aimé », maintenant, il est temps que je sois récompensé. J'ai assez aimé, je ne pourrais pas aller plus loin, etc. De telle sorte que le sentiment, la conviction d'être aimé est une conviction qui peut et qui ne doit, pour nous, enfin qui pour nous s'accompagne toujours du sentiment de notre indignité à être aimé. Si vaniteux que nous soyons, quel est celui d'entre nous qui dira « je mérite tout à fait d'être aimé » Nous le disons, je sais. Mais au fond, dès l'instant que nous examinons un peu sérieusement la situation, aucun ne peut soutenir « ben ça y est, je mérite tout à fait d'être aimé et je suis la cible des pensées amoureuses de tout le monde ». D'ailleurs, même d'une seule pensée amoureuse, je m'en trouve aussitôt indigne. Il faut donc dire que la conscience d'être aimé peut être brûlante, que la conscience d'être aimé peut être inquiétante, et que, au fond, je peux très bien, il y a en nous de cela, je peux très bien souhaiter n'être pas aimé. Au fond, je peux même penser que ce serait plus reposant de n'être pas aimé, et d'être, par exemple, dans un monde du pur droit, avec une comptabilité qui nous permet d'être quitte et qui nous permette donc de conclure, de tirer les traits d'une addition. Alors que l'amour que je reçois, tout amour que je reçois, est simultanément une exigence et une espérance. Si bien que l'idée selon laquelle Dieu est amour, certes, est le cœur du mystère chrétien, mais ce n'est pas une idée aussi bénigne et bienveillante qu'on le croit. Et il ne convient pas d'opposer le jugement et l'amour. Car au fond, l'idée d'un jugement qui serait de type juridique est plus reposante que la conscience d'être aimé à laquelle nous fermerions. Et c'est pourquoi, lors de la dernière rencontre, Frédéric Croulet a conclu à juste titre, il n'a pas besoin de mon approbation, que, au fond, il y a un seul péché, c'est l'orgueil, qu'il n'y en a pas d'autre. Que toutes les autres formes de pécabilité ne sont que des conséquences, que des ruisselets par rapport à l'orgueil, qui est précisément la revendication de n'avoir pas besoin de l'amour de l'autre ou de pouvoir édicter les raisons que l'autre aurait de nous aimer. C'est d'ailleurs pourquoi saint Thomas d'Aquin fait remarquer que les démons ne pêchent pas des péchés de la chair. Les démons n'ont rien à faire des péchés de la chair, surtout qu'on ne sait même pas quel est le sexe des anges. Donc on va pas. Les démons ne pêchent évidemment pas par avarice, ils n'ont pas de poche. Les démons ne pêchent pas par tous les péchés ordinaires des hommes. Le seul péché des démons, c'est l'orgueil. Car c'est ce qui ferme à la réception de l'amour. Ceci est traduit dans un très beau texte de Urs von Balthasar qu'on va lire ensemble. Voilà, c'est dans un texte dont je vous recommande la lecture, dont il a été fait une représentation ici, d'ailleurs, il y a quelques années. Il y a quelques années, nous avons eu la joie d'avoir une représentation du Cœur du Monde de Urson Balthazar, qui est un grand texte de méditation, et dans lequel donc von Balthazar traduit l'histoire d'une âme, pour reprendre une expression qui a servi ailleurs. Je ne sais pas si chacun aura part au partage. Tout le monde peut avoir le texte sous les yeux, non? Cela ne me dit rien. Je sais que je devrais, mais cela ne me dit rien. Je me bouche les oreilles, je me mets en boule, je hérisse mes piquants, que personne n'ait l'audace de me toucher. Doucement, presque imperceptiblement, et pourtant impossible à méconnaître, l'événement s'approche. Un rayon de lumière, une offre d'énergie, un ordre qui est plus et moins qu'un ordre, un souhait, une prière, une invitation, une séduction. Aussi bref qu'un instant, aussi simple à percevoir qu'un regard. Et dans tout cela, une promesse d'amour, de joie, une échappée sur des lointains infinis, éveillant un vertige. La délivrance du cachot insupportable de mon moi. L'aventure à laquelle j'ai toujours aspiré, le risque total dans lequel je serais sûr à la fois de tout perdre et de tout gagner, la source de la vie s'épanchant inépuisablement pour me désaltérer, moi qui mourais de soif. Et le regard posé sur moi est tout à fait paisible. Il n'a rien d'une force magique ni d'un charme hypnotique. Il ne fait qu'interroger, il me laisse libre. Et au fond des yeux alternent les ombres de l'inquiétude et de l'espérance. J'abaisse les yeux, je regarde de côté. Je ne veux pas m'en prendre à ses yeux, leur dire non en face. Je leur laisse le temps de se détourner, de se retirer dans la cachette de leur éternité. Le temps de s'embrumer, de s'effacer. Je ne suis pas à la maison. Monsieur fait dire que pour l'instant, il est occupé. Je leur laisse le temps d'abaisser la lourde paupière de l'éternité, de faire retomber le rideau de fer. L'espace d'une seconde, exactement au moment où je sais qu'il est trop tard, une douleur sans nom me traverse. Le bonheur entrevu a été négligé. L'amour a été bafoué. Personne ne me les rendra. La porte de la prison grince sur ses gonds. Me voici à nouveau emprisonné dans ce qui m'est si cher et si odieux en moi-même. Repoussé. Une fois encore, repoussé. J'ai pris une position telle que cela ne pouvait que glisser de côté. Heureusement, de nouveau seul. Non, pourtant pas seul. Seul avec un fardeau, avec une étreinte qui s'accroît, qui devient intolérable, qu'il faut rejeter aussi vite que possible. Je jette un œil autour de moi. Où pourrais-je me décharger de ce fardeau? C'est très urgent, il m'accable, je ne sais qu'une chose. Au loin, cette charge. Et je m'en débarrasse sur le premier venu. Deux fois repoussé, deux fois rejeté. Et pourtant, cela ne fait qu'une fois, car l'objet repoussé est aussi celui sur qui je l'ai repoussé. Cela reste accroché. D'un coup, je repousse les deux choses, la grâce et la faute. Comme je ne voulais pas porter le fardeau de la grâce, je me suis déchargé de la faute. Je ne connais pas de texte qui traduise mieux ce qu'est, au fond, la forme la plus ordinaire du péché, c'est-à-dire l'espoir entrevu auquel on se ferme au prix d'un petit hoquet qui nous fait dire « Allez, c'est trop tard. » Vous savez que Dante dit qu'à l'entrée de l'enfer, il est écrit « Ici, abandonne toute espérance. » Je crois qu'à l'entrée de l'enfer, il est écrit « Trop tard. » Par exemple, celui qui connaît la vérité, mais trop tard. en manière de plaisanterie tout à fait irrespectueuse, je pense souvent, vous savez, j'aime beaucoup le genre des ultima verba, des derniers mots prononcés à l'article de la mort. Il y en a de très beaux, dont celui d'Aristote, oh, mes amis, il n'y a pas d'amis. Mais je pense qu'en fait, les ultima verba les plus fréquents, ça doit être « Oh merde !» Je croyais que c'était une blague, puis c'est pas une blague. Je croyais que c'était pas grave, et puis c'est grave. Je croyais que c'était une parenthèse, et c'est pas une parenthèse. Je croyais que c'était pour du beurre, et c'est pas pour du beurre. Oh merde. Le péché, c'est le moment où la liberté devient destin. On le sait dans le mensonge, on le sait dans l'alcoolisme, on le sait dans toutes les formes de péché, quelles qu'elles soient. Le péché, c'est le moment où la liberté devient destin. Et ce qu'on peut comprendre dans l'enfer, c'est justement cette idée que la liberté devienne un destin. En passant sous le panneau du « trop tard ». Au moment même où, au fond, je n'ai pas cru, je n'ai pas voulu croire à ce que je ressentais comme l'espérance. Au moment même où je n'ai pas voulu croire à ce que je ressentais comme la joie la plus essentielle. Et donc, il est douloureux d'être aimé, il est difficile d'être aimé, et le choix que l'on peut très bien imaginer face à la sollicitation de l'amour, c'est celui donc de cette fermeture, à la fois emprisonnement et soulagement, quand je m'enferme sur ce qui m'est si cher et si odieux, moi-même. Voilà pourquoi, dans le texte qui est au verso, Jean-Miguel Garrigue, dans un livre dont je recommande également la lecture, Dieu sans idée du mal, qui est un des livres les plus éclairants de la théologie, à mes yeux, Jean-Miguel Garrigue dit que on n'est pas en enfer pour refuser d'aimer, mais pour refuser d'être aimé. Et l'enfer n'est pas le lieu où l'on n'aime pas, l'enfer est le lieu où l'on n'accepte pas d'être aimé. C'est-à-dire où on n'accepte pas l'essentielle ouverture, l'essentielle vulnérabilité et dépendance que suppose l'amour. C'est ainsi que peut se comprendre, dans la mesure où on peut le comprendre, en allant le plus loin possible au bord du mystère, c'est ainsi que peut se comprendre le caractère irréversible de la damnation, le caractère définitif de la damnation, le caractère éternel de la damnation. Si l'amour de Dieu est éternel, la damnation est éternelle. On pourrait souhaiter que l'amour se reprenne. Mais au fond, ce n'est pas la faute de l'amour s'il n'est pas aimé. Et si cet amour est éternel, d'une certaine manière, on peut comprendre que la possibilité d'une damnation éternelle est réelle. Car la seule échappée, en quelque sorte, de cette damnation éternelle serait que de cesser d'être aimé et de pouvoir tranquillement s'enfermer dans cet enfer qui est, au fond, comme le dit Lacordaire, simplement la conséquence de notre liberté. En ce sens, la justice de l'enfer est purement immanente. Il ne faut pas l'imaginer à la manière d'une justice qui interviendrait de l'extérieur par une sentence et un arbitre, mais comme la situation cohérente, conséquente d'une liberté qui fait le choix de son auto-enfermement devant la possibilité de l'amour. C'est ce qu'explique, le mot n'est pas très approprié, c'est ce que médite Jean-Miguel Garrigue, donc dans la page qui est au verso, on la lit rapidement. Il apparaît clairement que la justice de Dieu est inséparable de son amour. C'est tout le contraire d'une justice de vengeance. Bien sûr, cela revient à une punition par justice immanente, mais c'est le damné qui se punit lui-même. Dieu donne ce qu'il a promis. Et sa justice consiste à ne pas pouvoir revenir sur sa parole. Il a promis l'être, il le donne. Il ne peut pas cesser de faire exister une de ses créatures spirituelles. Il a promis la vie éternelle en sa présence, il la donne. Si cela rend quelqu'un malheureux, il ne peut s'en plaindre qu'à lui-même qui fait volontairement de ce bonheur un malheur. Nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux. Si au moment du jugement, un damné voulait se lever en disant « Seigneur, malheureux que je suis, qu'ai-je fait de ma vie ?» l'amour de Dieu s'engouffrerait en lui. S'il y avait chez le damné cette désolation que l'on constate chez certains condamnés à mort qui pleurent sur leur sort au moment où l'on prononce la sentence, s'il y avait quelque chose comme cela en lui, cela ouvrirait toute grande les vannes de la miséricorde de Dieu dans son cœur. S'il est damné, c'est en s'endurcissant dans une résistance ultime contre la miséricorde, au point que la miséricorde elle-même devienne pour lui une souffrance. Le moindre mouvement, sinon d'amour, allez, même seulement du besoin d'amour, provoquerait ce qu'a provoqué chez le père le retour intéressé de son enfant dans l'histoire du fils prodigue. Il n'est pas revenu vers le père d'abord par repentir, il est revenu vers le père poussé par la faim. Chez mon père, se disait-il, même les serviteurs mangent mieux que je ne mange maintenant. Ce n'était pas glorieux, mais cela a suffi, car il a accepté d'être aimé par le père, comme le bon larron sur la croix. On n'est pas damné parce qu'on a refusé d'aimer, ou alors nous le serions tous. On est damné parce qu'on refuse d'être aimé. Cela se fait par un apprentissage quotidien de l'orgueil. Ou bien sûr, on commence à désapprendre à aimer, et à force de désapprendre à aimer, à désespérer de l'amour. Et comme on a refusé d'aimer, on ne sait plus ce que c'est qu'aimer, et donc on commence à penser que c'est une pure tromperie. Et de fil en aiguille, on commence à ne plus supporter dans ce monde d'être aimé, ou de voir les autres s'aimer. C'est par exemple comme ça que Shakespeare, dans Othello, peint le diable dans la figure de Iago. Et si Iago est la figure du diable, celui qui va séparer Othello et Desdémone et faire naître le soupçon dans la tête d'Othello, c'est parce que lorsque Iago voit Desdémone et Othello s'embrasser, lorsque Iago voit Othello et Desdémone s'aimer, lorsqu'il les voit heureux, il est malheureux. Et il faut que d'une manière ou d'une autre, il détruise ce bonheur. Et c'est ça, au fond, la posture satanique de la volonté de détruire le bonheur, de ne pas supporter non seulement d'être aimé, mais de voir les autres s'aimer. Jean-Miguel Garrigue conclut, du moins cet extrait, « Nous savons bien qu'il y a quelque chose comme cela dans notre cœur, comme un petit ressort d'enfer. » Ainsi s'éclaire un peu l'idée de l'éternité de la damnation, qui est l'idée la plus difficile. Je voudrais l'approfondir encore à l'aide de Kierkegaard, qui, dans un également très beau texte qui s'appelle « De l'immuabilité de Dieu », nous explique comment cette immuabilité de Dieu peut être à la fois notre plus grande espérance et notre plus grande horreur. Et que donc on peut comprendre l'éternité des peines ainsi que de haïr que l'autre continue de m'aimer alors même que je l'ai trahi. Oui. Si j'ai promis, alors là on va se dire des choses un peu graves, si j'ai promis amour à quelqu'un, puis que finalement je trahis pour une raison XY, ce serment, puis-je encore souhaiter que celle que j'ai trahie m'aime ? Il deviendra odieux qu'elle m'aime. Je ne supporterai pas qu'elle m'aime, cette cruche. Il faut surtout qu'elle ne m'aime plus, pour me délivrer de ma faute. Tant qu'elle m'aimera, je ne serai pas délivré de ma faute. Et c'est ainsi qu'on peut arriver à souhaiter n'être pas aimé. Quand précisément on a trahi ? Et que l'immuabilité de l'amour de l'autre devient, bien malgré lui, cruelle. Ce n'est pas de la faute de l'amour s'il n'est pas aimé. Et il devient... J'aurais envie de dédouaner l'autre, n'est-ce pas ? Dire, bah, écoute, maintenant, je te dispense de m'aimer. Hein. Et donc, si, au contraire, cet autre continue d'aimer, ma trahison devient insupportable. Nos contemporains ont beaucoup de peine à le comprendre dans la relation entre un homme et une femme. Ils le comprennent un peu mieux, dans la relation entre un adulte et un enfant. Car au fond, Dieu souffre comme un enfant, par la main de ceux qu'il aime. L'enfant martyr souffre de manière incompréhensible par la main de ceux qu'il aime. Et ce qu'on sait d'ailleurs, c'est que l'enfant martyr ne peut pas retirer son amour. Et c'est ce qui fait que le fait qu'il ne puisse pas retirer son amour augmente en quelque sorte la volonté de souillure, la volonté de rejet, la volonté de haine. Parce que précisément, l'enfant, lui, il est obligé d'aimer. Je l'ai peut-être déjà dit, parce que c'est quelque chose que je répète souvent, excusez-moi si ceux qui l'entendent une deuxième fois, mais moi j'ai compris ce qu'était le regard de Dieu à travers le regard de mes enfants. Parce que c'est insupportable, quand ils sont petits. Hein. Après, ils sont comme nous, ils moisissent. Mais le regard d'admiration de mes enfants m'était insupportable. Le regard de confiance de mes enfants m'était insupportable. J'avais envie de leur dire « arrière, merde !» Exactement comme Saint-Pierre dit au Christ « Éloigne-toi de moi, Seigneur !» Et parce que le regard d'amour qu'il porte sur moi, au fond, me brûle. Et il peut arriver que l'amour soit brûlant et insupportable à proportion précisément où on s'en sait indigne. Et donc, si jamais je pouvais en venir sérieusement, et il y a de ça en nous, au désir que cet enfant cesse de m'aimer, que cette femme cesse de m'aimer, que Dieu cesse de m'aimer, alors je suis en enfer. C'est-à-dire, enfin, tranquillement, enfermé en moi-même. Et enfin, autorisé à dire que l'amour, c'est de la foutaise. Bon pour les feuilletons. Je lis cette belle page de Kierkegaard, donc dans un discours de Kierkegaard, ça s'appelle « De l'immuabilité de Dieu ». Pour nous qui sommes légers et inconstants, cette pensée de l'immuabilité de Dieu n'apporte donc que crainte et tremblement. Songe-y bien. Que Dieu se décèle ou non en quelque chose, il est immuable éternellement. Songe-y bien. Si, comme on dit, tu as quelque différend avec lui, qui est immuable? Peut-être as-tu fait une promesse, sacrée même, et qui t'a engagé? Mais tu as changé au cours du temps. Tu penses maintenant plus rarement à Dieu. Ou tu as peut-être sur lui d'autres idées, te disant qu'il ne se soucie pas des bagatelles de ta vie. Et qu'il est enfantin de le croire. En tout cas, tu as ainsi oublié ce que tu lui as promis, oublié ce que tu lui as promis. Je dis bien oublié, lui qui n'oublie rien, lui l'immuable éternellement, et qu'il y a pour un homme fait enfantillage déplacé à croire qu'une chose est insignifiante à ses yeux. Dans nos rapports interindividuels, nous nous plaignons souvent de l'inconstance des autres. L'un se plaint que l'autre ait changé. Mais même dans nos relations humaines, la constance inflexible de l'un peut être parfois une sorte de tourment. Et donc on se plaint de manière conventionnelle que les autres changent, on se plaindrait davantage qu'ils ne changent pas. Et on pourrait même finalement trouver en cela un tourment. Voilà ce qui nous permet d'éclairer quelque peu ce mystère difficile qui est celui de l'enfer, c'est-à-dire de la damnation et de l'éternité de la damnation, qui, je le rappelle, donc, nous place devant le sérieux de notre liberté, nous place devant la possibilité de l'espérance et du salut, et par là même devant la possibilité de refuser ce salut. Maintenant, en conclusion, on peut poser la question: est-il, diable possible, qu'un homme refuse à ce point d'être aimé? On ne peut pas l'exclure. puisque ça appartient précisément à la définition même de l'amour. Ça appartient précisément à la définition même de la liberté. Et donc, on ne peut pas écarter qu'il y ait une réalité de la damnation pour quelqu'un, si Dieu est Dieu et si Dieu est l'absolu, qu'il y ait une réalité de la damnation pour une âme, pour une personne, pour un ange, qui par orgueil se serait fermé à cet amour. Dans sa grande sagesse, l'Église ne s'est jamais prononcée sur qui est en enfer. Même pas Judas. Qui pourtant, on se dit quand même lui, il pourrait bien, il aurait sa place. Et l'Église qui prononce quelques canonisations et nous invite à vénérer dans certaines figures des personnalités à travers lesquelles nous pressentons ce qu'est le salut, n'a prononcé aucune malédiction. Et ne dit pas que celui-ci est, n'a jamais invité d'aucune manière à souhaiter la perte de quiconque. Et donc, pensez à la personne que vous détestez le plus. Ne me regardez pas comme ça. Pensez à la personne que vous détestez le plus. Il vous est interdit de souhaiter sa damnation si vous êtes croyant. Vous ne pouvez que espérer, au contraire, son salut. Voilà pourquoi la pensée de l'enfer est une pensée d'espérance. Vous voyez ? En ce sens que on ne sait pas, alors c'est là-dessus que c'est ce que dit von Balthasar, là encore, on ne sait pas s'il y a des âmes en enfer, on ne sait pas s'il y a des damnés, mais le rejet de l'apocatastase signifie bien qu'on ne peut pas exclure qu'il y en ait. On ne peut simplement espérer qu'il n'y en ait pas. Et puis surtout, pour celui qui est croyant, on peut craindre pour soi. Il y en a un seul, finalement, par rapport auquel la question du salut ou de la damnation se pose, c'est moi. Il n'y en a qu'un devant lequel cette question soit sérieuse. Il ne s'agit pas pour moi de mettre des bons points aux autres, et de dire, bah tiens, lui, je connais la case dans laquelle je le ferai rentrer, mais de mesurer comment la relation à Dieu est une relation dans la crainte et le tremblement, à partir du moment où l'on est placé devant cette exigence de l'amour qui est plus cuisante que ne peut l'être, au fond, celle de la justice, avec laquelle on peut toujours espérer être quitte. C'est ce que dit von Balthasar quand il dit « Je ne peux parler d'enfer que pour moi, car je ne pourrai jamais supposer la damnation d'un autre, et je ne pourrai jamais supposer que la damnation d'un autre est plus vraisemblable que la mienne. » Et si bien que on comprend que... c'est pourquoi Frédéric Roulet, d'ailleurs, a conclu aussi sur ce point son exposé la dernière fois. On commence à comprendre pourquoi les figures que l'Église nous présente comme les figures les plus grandes de la sainteté sont celles aussi qui avaient la conscience la plus aiguë du péché. Parce que celui qui a une conscience aiguë de l'amour sait ce qu'il risque de manquer. Si j'ai une conscience superficielle et vague de l'amour, je n'ai qu'une conscience superficielle et vague de ce que je peux manquer. Et plus je connais le prix de ce que je peux manquer, plus l'inquiétude de ce que je peux manquer est grande. Et donc plus le caractère crucial, dramatique, comme je le disais, de la liberté apparaît. Et c'est pourquoi donc cette pensée est simultanément une pensée de la crainte et de l'espérance. Je conclurai avec quelques mots de Teilhard Chardin. Mon Dieu, parmi tous les mystères auxquels nous devons croire, il n'en est sans doute pas un seul qui heurte davantage nos âmes humaines que celui de la damnation. Mais vous nous avez interdit de penser avec une certitude absolue d'un seul homme qu'il était damné. Je ne chercherai pas ici à regarder les damnés, ni même en quelque manière à savoir qu'il en existe. La présence des damnés en enfer n'est donc pas un objet de foi, mais en revanche, ce qui est un objet d'espérance, c'est le salut, et c'est ce qui permet de dépasser, au fond, toutes les imageries plus ou moins angoissantes que l'on peut susciter à l'occasion de la réflexion sur l'enfer.